comme vous écoutez toujours France Culture, eh bien vous retrouvez Raphaël Antoven, les nouveaux chemins de la connaissance. Bonsoir.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite ce mercredi 1er avril d'une semaine sur la philosophie du sport dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Denis Moreau et Pascal Taranto venus vous parler de boxe et de course à pied, après Denis Grosdanovic venu divaguer sur le tennis, c'est l'astro-métaphysicien Igor Bogdanov que les nouveaux chemins de la connaissance accueillent aujourd'hui pour parler de VARAP, c'est-à-dire d'escalade. Qu'on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés, qui soit suspendu au haut des tours Notre-Dame de Paris, il verra par raison évidente qu'il est impossible qu'il en tombe. Qu'on jette une poutre entre ces deux tours, d'une grosseur telle qu'il nous la faut à nous promener dessus, il n'y a sagesse philosophique de si grande fermeté qui puisse nous donner courage d'y marcher comme nous ferions si elle était à terre. Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra, plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. Bonjour Igor Bogdanov.
Eh bien bonjour, bonjour. Bonjour. Quelle joie d'être ici.
Eh bien c'est une joie de vous accueillir, merci d'être avec nous. C'est d'escalade qu'on va parler ensemble aujourd'hui, ce mercredi. On vient d'entendre deux textes, le premier de Montaigne et le second directement inspiré du premier, et de Pascal. Oui. Les deux textes ont en commun de pointer le fait que le vertige n'est pas une affaire de raison, ou plus exactement qu'on ne dompte pas le vertige par la raison et qu'on a beau savoir qu'à bien faire on ne risque rien, on a peur quand même.
Oui, on a peur quand même parce que il est très simple de s'approprier l'espace qui est immédiat, celui qui est autour de nous, mais dès qu'il il est question de gravir des hauteurs, de prendre de l'altitude, là, le corps se trouve dans une situation à laquelle il n'est pas habitué. Le cerveau réagit avec des signaux auxquels il n'est pas habitué, et donc on est en péril. On le sait, il est très difficile, même lorsqu'on a domestiqué complètement le geste, d'échapper à cette contrainte de la raison. Finalement, je peux tomber.
Alors justement, je peux tomber, mais c'est le corps qui le sait, quoique la raison nous persuade du contraire.
Oui,
c'est encore une fois ça qui est tout à fait passionnant. C'est-à-dire que en philosophie, l'un des enjeux, et d'ailleurs dans cette semaine sur la philosophie du sport, l'un des enjeux est de penser évidemment le lien entre l'esprit et le corps.
Évidemment.
Savoir si le corps ou si le sport n'est pas une incorporation de l'esprit ou une spiritualisation du corps. On en parlait lundi, on en a également parlé hier avec Denis Grosdanovic. Ici, nous avons un débat presque conflictuel entre l'esprit qui indique qu'on peut s'aventurer sur cette poutre car elle est assez large et qu'en somme, à marcher droit, on ne risque rien, et le corps qui, lui, pourtant, pressent la profondeur, l'abîme, et sur lequel, par conséquent, l'esprit n'a aucune prise.
Mais oui, il n'a aucune prise. C'est ce que disait il y a quelques années dans un film superbe qui avait été réalisé par les frères Janssen. C'était Edlinger sur
Edlinger, c'est Patrick Edlinger. Hein, il faut préciser qui c'est.
Exactement.
Et alors, donc, c'est un immense grimpeur.
C'est un immense grimpeur. Bon, je l'ai rencontré deux fois, d'ailleurs, à Fontainebleau. Et Edlinger disait, au fond, quand on effectue un geste, c'est-à-dire on va saisir par exemple une prise, quand on est à 2 mètres même si cette prise est difficile, on passera le mouvement. En revanche, il le dit lui-même, ça c'est sa citation, je le cite, quand vous êtes à 200 mètres de haut, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce que...
Pourtant, la prise est la même.
C'est la même, mais l'appréciation qu'on en a, au bout des doigts n'est pas du tout la même. Et ce fameux gaz dont parlent les alpinistes et dont parlent les grimpeurs, le gaz, c'est le vide. Et le gaz est aussi bien sous les pieds, à 200 mètres de haut, que dans la tête. Et c'est lui qui s'empare très souvent, justement, de la raison du grimpeur et qui fait que, tout à coup, à 200 mètres de haut, il peut être saisi d'une sorte de panique, ne peut plus bouger. C'est arrivé à des amis grimpeurs qui, tout à coup, ont été totalement incapables d'aller plus loin. On ne peut plus grimper, on ne peut pas redescendre non plus, on est bloqué dans une situation inextricable jusqu'à ce que soit la raison l'emporte. La plupart du temps, heureusement, quand il s'agit de grimpeurs confirmés, la raison l'emporte. On finit par se calmer, on finit par réoxygéner ses membres, par faire ce qu'on appelle le point de repos nécessaire, et puis on repart. Mais quand même, on sait qu'on peut passer, quand on est grimpeur, surtout engagé dans des voies solitaires, par des moments comme ça, où la raison n'est plus capable de mobiliser suffisamment de lucidité pour échapper à la panique.
Alors, c'est dire que la grimpe, l'escalade ou la varappe, pour parler à l'ancienne, est un sport. On dit que celui qui grimpe, qui fait une voie en solitaire, en solo, oui, c'est-à-dire sans harnachement, sans corde, sans protection, celui-là est un inconscient. Et en somme, on ne croit pas si bien dire en le disant, puisque c'est précisément une affaire d'inconscience. Il s'agit de ne pas être conscient de ce qu'on fait pour être conscient du lieu où poser sa main ou poser son pied.
Mais en fait, c'est une double inconscience. Il y a une double articulation de l'inconscient, pour parler un petit peu comme Lacan, qui, d'une part, permet de s'abstraire de cet environnement et de la situation très anxiogène dans laquelle se trouve le grimpeur, au moment où on est engagé sur une voie où on est à 20 mètres de haut, où il faut faire abstraction de la chute possible. Et puis, il y a aussi l'inconscient du geste. Et ça, c'est l'habitude du grimpeur qui finit par inscrire dans les profondeurs, entre guillemets, pour parler comme Ravesson, de la nature, qui finit par faire descendre la lumière dans les profondeurs de la nature. Ça, c'est le geste pris par l'habitude, tel que l'a décrit Ravesson.
Alors, le texte auquel vous faites référence, c'est un texte tout à fait extraordinaire de Ravesson. C'est un texte qui s'appelle « De l'habitude ». C'est un texte d'ailleurs dont la particularité, il faut le dire aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'existence de Ravesson, Félix Ravesson, qui est l'ancêtre de Bergson.
Évidemment.
C'est un texte écrit dans un français limpide, avec des mots simples, magnifiques, qui fait 25 pages et qui pourtant est d'une densité extraordinaire. On dirait une pelote de laine très tendue, dont chaque phrase semble dérouler un fil infini. Et alors, le propos de ce texte, dit Ravesson, c'est, dit-il, de surmonter l'exil de l'esprit, c'est-à-dire d'en revenir à une incorporation de l'esprit par le biais de l'habitude, du double mouvement de l'habitude par lequel à la fois la conscience se perd et en même temps la conscience s'incorpore et prend la forme souveraine du réflexe de l'instinct qu'on retrouve par exemple dans la virtuosité d'un pianiste.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, comme c'est un petit peu l'initiateur, celui qui a ouvert la voie à la réflexion d'un Bergson, c'est un spiritualiste, il va jusqu'à Guiton. Et Guiton, je m'en souviens. Jean Guiton, je m'en souviens parce que nous l'avons très bien connu.
Vous avez fait un livre avec Jean Guiton.
Nous avons fait un livre avec lui et très souvent nous prolongeons des conversations qui duraient jusqu'à minuit, une heure du matin, sur tous les thèmes de la vie. Et en réalité, donc, Jean Guiton nous disait « J'ai l'habitude d'aller à pied de chez moi au Luxembourg jusqu'à l'Institut ». Et il disait, en ajoutant de sa petite voix qui faisait rêver à elle toute seule, en fait, il disait « Oui, ce sont mes pieds qui avancent tout seuls, je n'ai aucun effort à faire ». Donc, en réalité, ça veut dire que cette habitude, dans ce chemin-là, inscrivait une sorte de facilité du geste.
La forme la plus élémentaire de l'existence, avec l'organisation la plus parfaite, c'est comme le dernier moment de l'habitude, réalisé et substantifié dans l'espace sous une figure sensible. L'analogie de l'habitude en pénètre le secret et nous en livre le sens. Jusque dans la vie confuse et multiple du zoophyte, jusque dans la plante, jusque dans le cristal même, on peut suivre à cette lumière les derniers rayons de la pensée et de l'activité, se dispersant et se dissolvant sans s'éteindre, mais loin de toute réflexion possible, dans les vagues désirs des plus obscurs instincts. toute la suite des êtres, n'est donc que la progression continue des puissances successives d'un seul et même principe qui s'enveloppe les unes les autres dans la hiérarchie des formes de la vie, qui se développe en sens inverse dans le progrès de l'habitude. La limite inférieure est la nécessité, le destin si l'on veut, mais dans la spontanéité de la nature. La limite supérieure, la liberté de l'entendement. L'habitude descend de l'une à l'autre, elle rapproche ses contraires, et en les rapprochant, elle en dévoile l'essence intime et la nécessaire connexion. Igor Bogdanov est notre invité aujourd'hui, le grimpeur. Igor Bogdanov, on vous connaît mal comme grimpeur. Igor Bogdanov, c'est un tort, car vous excellez dans ce sport que vous pratiquez depuis des années. D'ailleurs, la grimpe ou l'escalade est précisément ce dont on ne peut parler que si, on le pratique, en l'occurrence. Seule l'expérience, j'allais dire, donne presque le droit, ou en tout cas les moyens, d'en parler.
Oui, parce que la situation que traverse le grimpeur, qui est une situation toujours verticale, il s'agit de conquérir des sommets. Que ce soit des sommets de faible hauteur, comme à Fontainebleau, ou bien des sommets beaucoup plus hauts, comme c'est le cas dans les Alpes, par exemple. Moi, j'ai commencé l'escalade par la montagne, par la haute montagne, et en particulier dans les Alpes autrichiennes, et j'ai pu goûter aux délices, par exemple, d'une ascension comme celle de l'Eiger, que j'ai eu le plaisir de gravir en deux jours. Enfin, c'est une ascension extrêmement difficile, parce qu'il y a 1000 mètres à peu près de parois verticales glacées par la face nord. Et puis ensuite, à Fontainebleau, bien sûr, depuis des années, j'ai retrouvé, à échelle réduite, exactement le même plaisir que celui qu'éprouve le montagnard en haute montagne. Pourquoi ? Parce que qu'on se trouve à 500 mètres de haut sur la paroi de l'Eiger, ou bien à 5 mètres de haut sur la paroi de la boucherie, ou bien encore de l'abattoir.
Hein, boucherie ou abattoir sont les noms des rochers dont on parle comme des personnes.
Ce sont des voies, ce sont des personnes. Ce sont d'ailleurs, ces noms-là leur ont été donnés par les ouvreurs, c'est-à-dire ceux qui ont ouvert la voie. L'abattoir, par exemple, a été ouvert par Michel Libert. C'était dans les années, à la fin des années 50, le premier CETA de la forêt.
Il faut préciser ce que vous entendez par CETA.
Mais CETA, c'est le degré de difficulté. Parce que on commence, c'est un petit peu comme le ski. Il y a les pistes pour enfants et puis il y a les pistes pour skieurs confirmés. C'est la même chose en grimpe. Il faut des années pour passer du circuit orange, par exemple, qui est le circuit débutant. Lorsque le promeneur arrive de Paris pour faire un petit circuit d'escalade à Fontainebleau, eh bien il va faire du jaune ou de l'orange. L'orange, c'est à sa portée. En revanche, avant d'aller dans le noir ou dans le blanc, qui sont les circuits des grimpeurs confirmés, qui sont classés ED, extrêmement difficiles ou extrêmes, eh bien là, il faut des années de travail, des années de pratique, des années d'entraînement, des années d'habitude pour parler comme Ravesson.
Alors, des années de pratique et des années d'habitude, on l'a vu avec Ravesson. Alors, Ravesson fait une zoologie de l'habitude. Il va inscrire l'habitude au cœur même de la vie et il va d'ailleurs jusqu'à situer l'habitude dans le cristal, comme si le rocher, le minéral lui-même était l'expression première, la forme première de la vie. On est là en présence d'un vitalisme, paradoxalement, alors que le rocher semble le comble de l'inanimé.
Le rocher semble le comble de l'inanimé, mais, c'est très curieux, le grimpeur en parle toujours comme d'une sorte de double symétrique de lui-même. Autrement dit, le geste du grimpeur s'inscrit dans la topologie du rocher. En réalité, pour devenir aussi transparent que le cristal, dont parle Ravesson, le geste doit être épuré. Le geste ne peut pas être opaque. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de rature dans le geste, sauf quand on s'entraîne. Mais lorsqu'on est sur la voie et qu'on doit sortir la voie, le geste doit être épuré, il doit être cristallin, il doit être pratiquement transparent. C'est-à-dire que le grimpeur confirmé est un grimpeur dont on admire toujours la facilité. On a l'impression que la voie, c'est du 7C, c'est du 8A, est une voie
facile. C'est-à-dire extraordinairement difficile.
C'est-à-dire extraordinairement difficile. Il faut des années et des années d'entraînement pour parvenir à
faire les trois mouvements.
Exactement, les trois ou quatre mouvements et les enchaîner de manière harmonieuse pour passer la voie. Eh bien, le grimpeur confirmé, lui, donne le sentiment qu'il s'agit d'une voie extrêmement facile, extrêmement simple. Pourquoi ? Parce que le geste aurait été rendu transparent justement par le travail qui incorpore l'habitude et qui fait en sorte que la lumière s'allume, comme le dirait encore une fois Rabesson, dans la sombre nuit du muscle. C'est l'euphorie musculaire, au fond, dont parle Bachelard, qui lui aussi était c'est quelqu'un qui s'appropriait l'espace par le geste, par la promenade. C'est quelqu'un qui comprenait exactement quel était le trajet suivi par le muscle du forgeron au moment où il allait abattre son marteau sur l'enclume. Eh bien, c'est la même chose, c'est une euphorie musculaire. Je crois que le grimpeur vit dans une autre dimension de son corps, il s'approprie autrement son corps et du bout de son petit doigt de pied jusqu'à la racine des doigts au moment où on est enarqué sur une prise difficile, la synesthésie du corps permet de vivre une autre conscience de soi-même. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles la grimpe est tellement addictive, pour employer un mot un peu anglo-saxon comme ça.
Alors, non seulement elle est addictive, mais surtout, elle produit une forme de liberté qui n'a rien à voir avec le libre arbitre. On va un peu réfléchir là-dessus. Hein. De la même façon que l'esprit n'a pas de raison sur le corps qui éprouve le vertige, et que c'est sur le corps lui-même qu'il faut travailler pour lutter contre le vertige et dissiper les mauvaises questions qui produisent la peur, de la même façon, l'entraînement de l'autre côté des choses, hein, l'envers et l'endroit des choses, oui. L'entraînement lui-même n'est pas un entraînement mental, mais un entraînement spirituel, c'est-à-dire un entraînement du corps et une mémoire corporelle qu'il faut réactiver à chaque fois qu'on y retourne et qu'on remet les mains dans une voie. Oui. De la même façon, la liberté qui est en jeu n'est certainement pas la liberté capricieuse d'une volonté qui ferait ce qu'elle veut, mais ce que Ravesson justement appelle une spontanéité naturelle. La spontanéité étant l'art d'être fidèle à soi, mais d'être fidèle également à ce qui nous fait agir, à ce qui nous détermine.
Oui. Cette liberté-là pose une question extrêmement intéressante. Parce que, au fond, pourquoi choisit-on de devenir grimpeur plutôt qu'autre chose ? Et là, j'ai envie de citer Barthes, que je connaissais lui aussi très bien pour l'avoir fréquenté en voisin dans le sud-ouest, à Urte, ou bien ici à l'école des hautes études, au moment du séminaire. Barthes disait « Je retrouve mon passé à travers les gestes ». Et il avait raison. Et c'est la raison pour laquelle il était occupé en plein mois d'août à Urte à faire son jardin. Il le faisait non pas parce qu'il avait besoin d'y faire pousser des légumes ou des fleurs, mais parce que ce geste de bêcher, de miner le petit sillon qui allait de la pompe à eau jusque devant le rang de tomates, eh bien, lui permettait de retrouver une enfance, une adolescence. Et je crois que, à travers le geste du grimpeur, on retrouve quelque chose qui est encore plus fort. C'est pas seulement l'enfance bénie, heureuse, rayonnante, qui nous permettait de grimper dans les arbres sans se poser la question de savoir si on allait tomber ou pas. Quoique, en effet, je crois qu'on retrouve quelque chose comme une enfance. Mais au-delà de ça, on retrouve aussi le souvenir d'une espèce qui est en soi, le cerveau reptilien dont on parle souvent entre grimpeurs, cette espèce de moi archaïque qui est
archaïco-euphoricain.
Archaïco-euphoricain, c'est exactement ça qui est le moi, un moi disparu, mais qui est celui peut-être de Néandertal qui survit en nous et qui fait que Néandertal, à cette époque lointaine, était en situation de grimpe permanente parce que ça faisait partie de sa vie à tous les instants de son existence.
De sorte qu'on accède aussi à une forme paradoxale, à une figure paradoxale du bien-être.
Oui, du bien-être, absolument.
Au sens qu'il faut entendre ici,
qu'il faut entendre ici, c'est-à-dire le relâchement de la conscience. On en a parlé en début d'émission. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
see, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Igor Bogdanov est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi à mi-chemin d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la philosophie du sport. Igor Bogdanov, vous avez parlé tout à l'heure de verticalité, de rapport à la verticalité. C'est l'évidence, évidemment, puisque bien quand sûr. On grimpe, il s'agit de s'élever. Mais de s'élever en même temps sans qu'on sache pourquoi, au fond, on le fait. De sorte que la verticalité dont il est question ici, les sommets qu'il s'agit peut-être d'atteindre, est une verticalité qui nous débarrasse de toute transcendance, de tout sens,
ou en
presque
tout cas,
de tout but.
Presque de tout but, oui, c'est vrai. Et c'est la définition même de l'acte gratuit, d'une certaine manière. Ça ne nous débarrasse pas de tout sens, parce que il s'agit de recomposer une sorte de peut-être de métaphysique de poche, au fond, de transcendance de poche. On va l'emporter avec soi dans le sac à pof. Hein. Le sac à pof, c'est
le sac à pof, c'est le sac de magnésie.
Le sac de magnésie, de résine, qui nous permet d'avoir toujours les mains sèches au moment où on les pose sur une prise.
Mais donc, les mains moites étant d'ailleurs le modèle de la mauvaise question.
Exactement, c'est le modèle de la mauvaise question. Mais pourquoi est-ce que je parle de transcendance de poche? Tout simplement parce que je crois que la sphère métaphysique dans laquelle s'inscrit le grimpeur est une sphère qui est à la fois très primale, elle est première, elle est presque, elle est fondamentale, en ce sens qu'il s'agit tout de même, à un moment ou à un autre, même si elle est la paroi sur laquelle se reflète cette peur est une paroi translucide, c'est la paroi translucide de la sphère métaphysique, mais on y projette quand même la peur de la mort. À un moment donné, il faut quand même dire les choses, c'est que quand on est à 4, 5, 6 mètres de haut, le corps est à risque. De toute façon, on n'a pas le droit de tomber. On sait que si le sol, comme c'est souvent le cas, par exemple à Fontainebleau, il y a des rochers qui affleurent, etc., c'est mal pavé, on peut tomber et se tuer. Donc on le sait. Et je crois que la sphère du grimpeur, la sphère métaphysique, cette transcendance de poche dont je parlais, elle contient ce risque-là, ce qui est un risque fondamental, puisqu'on se confronte malgré tout et pendant un temps très bref, à la possibilité tout simplement d'un accident mortel. Donc ça, c'est une première chose. Mais au-delà de ça, comment on transcende, évidemment, c'est la transcendance de poche, cette peur de la mort, eh bien, je crois que, un peu comme l'enfant est totalement ivre de la jouissance de se contempler intact après ce moment égarant du récit, où il est menacé d'être dépecé par le loup, par le danger du conte, eh bien, le grimpeur, lui, se retrouve intact à la sortie, en haut du bloc. Et je crois qu'à ce moment-là, il a, comment dire, bouclé le cycle.
Vous voulez dire que c'est la perspective de l'issue qui permet de surmonter l'obstacle?
Oui, moi je pense qu'il y a...
parce que certains grimpeurs vous diraient le contraire. Hein, certains grimpeurs vous diraient que c'est juste le geste pour lui-même, sans aucune représentation justement de son issue.
Oui, mais il y a le but inconscient, c'est tout de même de survivre à une situation qui est une situation dangereuse, et de faire en sorte que... même si, au moment où on traverse cette situation, au moment où, après avoir travaillé le geste pendant des années, on sait qu'on n'est pas véritablement en danger mortel, eh bien, même si on le sait, même si on le veut, il n'en reste pas moins que la couche profonde sur laquelle s'installe la voie, c'est-à-dire le fait qu'on va grimper et passer et sortir au sommet de la voie, cette couche profonde est quand même une couche mystérieuse, énigmatique, qui pour moi reste une étape initiatique à franchir à chaque fois.
Vous dites mystérieuse et énigmatique. Je retiens l'énigme, mais pas le mystère. Il n'y a pas de mystère dans cette affaire.
C'est très curieux.
Puisque tout est explicable. En revanche, c'est énigmatique d'abord parce qu'on ne sait pas pourquoi, et ensuite parce que il est énigmatique de constater que ce que le corps se refuse à faire telle semaine, tel week-end, quand on va grimper le week-end par exemple, comme c'est souvent le cas des grimpeurs amateurs, ce que le corps se refuse à faire tel jour, il le fait presque naturellement la semaine d'après parce qu'il l'a incorporé. De sorte qu'il y aurait peut-être une énigme qui, au contraire, reposerait sur la dissipation du mystère, puisqu'on sait exactement quels sont les gestes à accomplir.
C'est une question très très profonde là que vous posez là, Raphaël. Pourquoi ? Parce que même si le geste est incorporé à l'extrême, même si le scénario est tellement clair que l'on en connaît l'issue, même si on sait que chaque mouvement est précis et travaillé au millimètre près et permet donc de faire la voix, eh bien, pour moi, elle reste mystérieuse parce que à chaque fois, on le redécouvre. On ne la passe jamais tout à fait de la même façon. Il ne s'agit pas seulement de se mettre à risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, de braver le danger et puis de sortir la voix. Il s'agit aussi d'évaluer la manière dont son corps, ce dimanche-là, va réagir face à la voix. Il ne réagit pas toujours de la même façon. Et je pense que c'est aussi une lecture de soi-même face à un rocher qui est indifférent. Au fond, le grès est toujours le même, même si, en effet, des variations de température peuvent perturber un petit peu la perception qu'on a du rocher. Malgré tout, je pense qu'il y a là comme une exploration de soi-même qui reste de l'ordre du mystère et qui n'est jamais donnée d'avance.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, you never been so nuts about. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and
Igor Bogdanov, l'un des éléments dont on n'a pas encore parlé, mais qui est implicitement à l'œuvre dans notre conversation depuis le début de cette émission sur l'escalade, l'un des éléments peut-être cruciaux de cette affaire, c'est le silence. Le silence qui n'est pas d'ailleurs l'absence de bruit, mais davantage l'absence de parole. Qu'en dites-vous ?
Oui, parce que, en effet, d'abord, la communauté des grimpeurs est économe en parole.
Taciturne.
Elle est taciturne. Elle reflète en cela le silence du grès, qui est la montagne est silencieuse. Les blocs de Fontainebleau sont silencieux. Et je pense que le grimpeur...
Silence qui est une façon élégante de parler d'indifférence, en somme. Hein.
Oui, indifférence, peut-être. Mais surtout, je crois, de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une écoute d'un message qui vient de loin, auquel le grimpeur est sensible, pas seulement le grimpeur, mais aussi le promeneur, d'ailleurs, d'une manière...
Qui vient de loin, vous voulez dire qui vient d'ici.
Oui, mais qui vient surtout de loin dans le temps. Parce que lorsqu'on est en face d'un bloc... comme ceux de Fontainebleau, on touche le grès et on est en contact immédiat, à travers ce contact-là, tout de suite, à la surface de la peau, avec une matière qui a 37 millions d'âges. Elle est âgée de 37 millions d'années, cette matière-là. Ce bloc est âgé de 37 millions d'années. Donc, ça, on le sait. Et je pense que, peut-être de manière inconsciente, l'inconscient joue un grand rôle, on l'a vu tout au long de cette émission, on est respectueux de ce travail de la nature, de cette immensité du temps passé entre nous et les blocs. Et peut-être que par ce contact-là, on se dit qu'il y a de la magie, respectons-la.
Dans sa matière brune, ocre, grise, piquetée de mica rare, la pierre accroche superbement les variations de lumière, seule concession faite au temps, à l'image mobile incrustée dans ce monde d'éternité immobile. Là où se montre le minéral, l'éternité parle. Quand se manifeste la lumière, le temps s'exprime. Dans la disparition des repères chronologiques, le brouillard, la pluie et le soleil modulent des variations, des modifications, des transformations. Quand on croit étouffé, pris à la gorge par l'éternité, le temps revient sous forme d'ombre, de luisance, de matité, de multitudes sombres, de souffles ombrés, d'estompages discrets.
yan ji zhen chen bo me lu chu wa ra na shu de lo ma re ba ga ya la chu sung gi ye be nian ji ge zhen na wo dun.
Les brumes enveloppent, circonscrivent, entourent, étouffent discrètement, elles noient, enserrent dans de vastes étreintes invisibles, puis raréfient l'air, attaquent la respiration, digèrent l'oxygène, rafraîchissent les poumons et rendent courte la respiration des humains. La pluie imprègne, pénètre, humidifie jusqu'à la moelle, elle plisse la peau, congédie les surfaces lisses et installe une granulation froide sur tout ce qu'elle recouvre. Le soleil vaporise, chauffe, assèche, revitalise. Les pierres subissent la loi de ces éléments, la brume lisse et noircie, l'eau enveloppe et assombrit, le soleil libère les couleurs gris, bleu, violet, rose, grains révélés, matière expansive, chromatisme affolé, matière exacerbée, les pierres sauvages relèvent de très anciennes vérités. Igor Bogdanov, que pensez-vous de ce texte de Michel Onfray, extrait de son Esthétique du Pôle Nord ? C'est bien vu, non ?
Ah, mais c'est bien vu, c'est magnifiquement écrit. Et lorsqu'il parle de ces très anciennes vérités contenues dans les pierres, il a raison. Il a raison parce que il y a comme une sorte de message secret, au fond, dans la nature, mais en particulier dans ces sculptures. Je reviens toujours à celle de Fontainebleau, puisque c'est l'endroit que je connais le mieux. Dans ces sculptures naturelles formées par ces blocs de grès. Elles sont une double énigme, ces sculptures. Elles portent une question sur d'où viennent-elles ? Comment ont-elles été faites ? Quelle était la forme de l'océan, son étendue, desquelles elles sont nées, ces sculptures ? Et puis d'autre part, nous, grimpeurs, nous avons en face de nous une voie, nous ne l'avons jamais faite, nous voulons la faire. Eh bien, il nous faudra la déchiffrer. Il faudra patiemment, d'abord en la parcourant de l'œil, ensuite en y apposant nos doigts, ensuite en faisant peut-être le premier pas, il faudra la déchiffrer jusqu'à résoudre l'énigme, jusqu'à sortir. Quelquefois, cela se fait rapidement. La plupart du temps, ce sont des voies qui nous mobiliseront pendant plusieurs mois, voire quelquefois des années.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous parlez un peu des rochers, comme Frédéric Schifter, qui sera notre invité vendredi, parlera des vagues, dont il dit, à propos du surf, qu'elles ne sont pas écrites en langage mathématique, mais en langage poétique. Oui. Ce déchiffrement auquel fait appel le corps n'est pas un déchiffrement rigoureusement intellectuel, c'est un déchiffrement immanent. Oui. C'est un art de comprendre dans l'instant ce qui se passe, ce qui se noue, et de le comprendre surtout avec le corps. Ainsi, le langage qu'il s'agit de lire relève davantage de la poésie, là encore, que de la science.
Mais oui, et là, j'ai envie à nouveau de faire appel à Roland Barthes. Un jour, je suis allé le voir à Urth, et il était en train de jouer du piano. Et il referme le piano au moment où nous arrivons dans la pièce avec Grishka, et là, il lève les yeux vers nous pour nous dire simplement « L'important, ce n'est pas de jouer du piano, mais c'est de faire des sons ». En réalité, il avait tout dit. L'important, au fond, c'est pas tellement, et je rejoins par là la question posée sur la liberté du grimpeur que vous avez posée tout à l'heure. L'important, au fond, c'est de grimper. Hein. On ne va pas se poser davantage de questions quant à l'issue même de la chose. Et c'est pour ça que c'est un acte poétique. Et c'est en cela que le retentissement du geste du grimpeur à la fois sur lui-même et puis sur ceux qui l'observent, parce que le grimpeur, celui qui grimpe bien en tout cas, est souvent observé. À Fontainebleau, il y a toujours des attroupements autour des grimpeurs de haut niveau. Eh bien, il y a aussi un plaisir tout simplement à la fois de l'œil, ceux qui observent, puis aussi un plaisir de grimper. J'ai parlé de l'euphorie musculaire à propos de celui qui grimpe, le grimpeur. Et cette double articulation, si on peut dire encore une fois, du plaisir inscrit, trace un espace poétique. Je crois que la grimpe est un espace poétique, au sens presque de Bachelard.
On va revenir sur cet espace poétique. Avant cela, quand même, une chose intéressante sur la grimpe presque sociologique, justement. Vous dites qu'il y a souvent des attroupements autour des grimpeurs de haut niveau. La grimpe est un sport sans argent. Il n'y a pas d'argent, l'argent n'est pas l'enjeu ici.
C'est
de sorte qu'on peut se retrouver à grimper, racontez-vous, à côté de grands noms de la grimpe, Libert, Godoff, Montchaussée, Damaville, D'Artagnan. On peut être entouré
par d'immenses grimpeurs qui, tout à coup, comme ça, se matérialisent au pied de...
Joueur de tennis ne s'entraînera pas dans son club à côté de Pete Sampras.
Non, exactement. C'est tout à fait ça. C'est aussi la magie de cet espace si particulier qui est celui des grimpeurs et qui m'a permis, moi, par exemple, un matin, il était très tôt, il était à peu près 7h du matin en été, j'étais venu là pour prendre du temps sur la journée et puis ensuite l'inscrire dans son déroulement normal. Et tout à coup, vers 7h30, comme ça, au pied d'un bloc qui s'appelle La Boucherie, je vois, je le reconnais tout de suite, à ses longs cheveux blonds, je vois Edlinger, Patrick Edlinger.
Patrick Edlinger,
c'est un mythe, c'est quand même quelqu'un qui est connu du monde entier pour ce qu'il a fait. Et j'ai eu le plaisir ce jour-là, parce qu'il ne la connaissait pas, de lui montrer la voie. C'est-à-dire, en fait, de lui montrer exactement les enchaînements des mouvements sur les prises main droite, main gauche, le pied, quart interne, etc., qui permettaient de sortir de la voie, qui permettaient de faire la boucherie. Donc, c'est un souvenir qui m'est resté. Et je pense qu'en effet, c'est un des rares sports où on peut côtoyer les grimpeurs les plus renommés, les meilleurs de la planète, aussi bien que les débutants.
Alors, il faut en revenir à ce rocher, justement, ce rapport au rocher, à cette école d'étrangeté, finalement, puis cette altérité radicale, cette indifférence et ce silence du rocher. Revenons-en à cela, et par là même à la question de la poésie, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, la question de la création. L'une des questions que le grimpeur pose dans son langage, quand il accepte de prendre la parole, quand il dit quelques phrases en général, face au rocher, c'est comment fait-il ? Comment il fait comment le rocher fait comme si le rocher lui-même bougeait comme si c'était lui qui devait agir.
En réalité, le rocher pour le grimpeur est une structure immobile. Il ne bouge pas, donc il résiste. Le rocher est un résistant. Donc, il s'agit de faire, entre guillemets, reculer ses résistances petit à petit. Il s'agit de le conquérir. Le conquérir, ça veut dire finalement, je vais briser les résistances du bloc. Un, je vais résoudre l'énigme qu'il me propose. Et deux, lorsque j'aurai compris, lorsque j'aurai incorporé la chorégraphie du geste qui me sera nécessaire pour passer, eh bien, à ce moment-là, je vais briser sa résistance. En fait, le rocher, c'est un anti-moi, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui s'oppose à la réalisation d'une volonté qui est la mienne. Et il faudra bien, à un moment donné, que ma volonté l'emporte sur la sienne.
Quand on fait de la corde à sauter, c'est un peu comme quand on fait de la grimpe. Au début, c'est l'enfer. Les ligaments se tendent, les articulations gémissent, les hanches grincent, le cou craque, les poumons sifflent, les poignets brûlent, les genoux s'épanchent, les tendons tiraillent, on sent les lombaires s'affaisser sur ses disques, tandis que le cœur s'emballe comme une bête folle au milieu du thorax et que chaque pulsation crache un flot d'aiguilles dans le crâne. Pendant quelques minutes, le sauteur à la corde est une vieille machine, un vélo voilé, tout à ses habitudes et furieux d'être si maltraité. Mais à la corde à sauter, le second souffle, comme en varape, le second souffle est spirituel. Au bout d'un moment, vous voilà, sautillant, sans effort, vous respirez calmement, l'esprit à jeun. Vous êtes la tête et les jambes dans une transe molle, comme un terrain vague, un désert informe, conscient de tout, sauf de vous-même. C'est l'heure magique où, sous le voile foncé d'une corde en nylon, le monde et ses formes incongrues vous sautent à la figure, du dessin de l'eau sur la pierre à la course erratique et presque sonore qu'un papillon achève sur une fleur légèrement inclinée. Malheureusement, ça ne dure pas. Et bientôt, sous l'effet d'un souci, d'un faux pas, vous revenez à vous et le monde s'éloigne. Le miracle s'estompe, la danse s'interrompt, le cœur s'affole de nouveau, la tête vous brûle. De nouveau, les jambes sont lourdes et commandent le repos. C'est un voyage immobile pendant lequel la corde à sauter vous a soustrait à vous-même pour un moment de temps à l'état pur. Igor Bogdanov, est-ce que la question du rythme est importante en grimpe? On pourrait se dire a priori que chaque geste succède à l'autre, quelle que soit la temporalité qui les sépare, quelle que soit la distance temporelle entre chacun des gestes. Et pourtant, ce mouvement est un mouvement permanent. On ne s'arrête pas au milieu d'un rocher.
On ne peut pas s'arrêter au milieu d'un rocher tout simplement parce que le muscle ne le supporterait pas. Il faut enchaîner les mouvements. Lorsque, par exemple, on arrive au bout du quatrième mouvement à la prise clé de l'abattoir, on ne peut pas prendre un...
L'abattoir,
c'est donc le premier état de la forêt. Il a été ouvert donc dans les années 60 par Michel Libert. C'est un bloc extraordinairement beau à regarder. Le grimpeur qui passe ce bloc est admiré parce que il est dans une situation où on est pratiquement à la verticale, presque sur le dos. On n'a pas le droit de tomber à ce moment-là, bien sûr. On ne tombe pas d'ailleurs en général si on est arrivé à ce niveau-là. L'abattoir est donc un bloc qui est extrêmement difficile parce que il implique une série d'une dizaine de mouvements, ce qui est beaucoup, ce qui est très long en grimpe, parce qu'en général, 3 ou 4 mouvements, on est en haut du bloc.
Là, et on est épuisé surtout.
On est épuisé. Et là, on ne peut pas faire autre chose que d'enchaîner. On ne peut pas se reposer. Tous les mouvements sont difficiles. On est entendu tout le temps. Chaque muscle travaille. Et donc, il faut enchaîner, selon une séquence qui est extrêmement précise, les gestes, les uns à la suite des autres, sans quoi on ne sortira pas. Donc, en effet, la temporalité joue son rôle, non pas de point de repos, mais de distribution de l'effort, c'est tout. Et on n'a pas le droit, par exemple, de se reposer plus qu'une demi-seconde entre chaque geste, sans quoi on tombera.
De sorte que la temporalité ici est à penser de façon non sécable, non spatialisable. Le temps n'est pas de l'espace, ça c'est Bergson qui l'enseigne, à la suite de Ravaisson justement. Oui. Le temps ne peut pas être représenté sur le mode de l'espace, le temps est ici continu, le mouvement doit être continu sous peine de chute.
Oui, parce que nous sommes dans le temps réel, le temps réel c'est de l'énergie, les muscles ne contiennent qu'une quantité finie d'énergie, elle est renouvelable mais elle n'est pas mobilisable dans un temps très bref, de 2 minutes, le temps qui est nécessaire pour gravir, par exemple, j'y reviens, l'abattoir. Mais tant qu'on est dans le temps réel, nous sommes dans le monde de l'énergie. En revanche, il existe un autre temps. Et là...
Le temps des horloges.
C'est pas le temps des horloges, c'est le temps des physiciens. Le temps des physiciens, lui, est orthogonal au temps dans lequel nous vivons, qui est le temps réel. C'est ce que j'appelle le temps imaginaire. Le temps imaginaire, lui, n'est plus associé à l'énergie. Il n'y a plus de muscles mobilisés dans de l'énergie pour franchir une voie difficile, mais il y a de l'information. Je vais être très très bref, mais très simple, de manière à ce que tout le monde comprenne ce que c'est que ce fameux temps imaginaire. Si vous regardez une photo de Michel Libert, par exemple, en train d'ouvrir l'abattoir, dans le mouvement clé, eh bien, la photo est immobile, elle immobilise un geste. Donc, en réalité, c'est une information, c'est du temps imaginaire. Et Michel Libert restera immobile sur la prise clé de l'abattoir pendant 1000 ans.
On ne saisit là qu'un instantané.
On va saisir un immense présent perpétuel, d'une certaine manière. Ça, c'est le temps imaginaire tel que les physiciens le décrivent, c'est-à-dire au fond de l'information. C'est le film que vous introduirez dans votre DVD, c'est-à-dire que vous allez traduire de l'information gravée dans le silicium du disque DVD en film visible et compréhensible et accessible dans le temps réel. C'est toute cette différence-là. Le grimpeur, lui, il n'est pas dans le temps imaginaire. Il est dans le temps réel. Et ce temps réel est une contrainte terriblement puissante dans laquelle il est inscrit, à laquelle il doit obéir, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas justement le temps de se reposer entre les prises.
De sorte que grimper, effectivement, interdit de tricher. On en revient d'ailleurs à ce qu'on disait de l'imagination au début. L'imagination, c'est ce qui nous donne le vertige, quand bien même la raison nous indique qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'on puisse tomber. L'imagination, c'est ce qui fabrique le vertige. En tout état de cause, l'escalade est un, j'allais dire, presque un remède à l'imaginaire, si tant est que l'imaginaire soit une maladie.
Oui, c'est exactement ça. C'est une sorte de raccourci, au fond. On va couper à travers son imaginaire, un peu comme on coupe à travers champs pour aller un peu plus vite d'un point à un autre. Et je crois que le grimpeur, d'une certaine manière, va couper en permanence, prend des lignes droites comme ça à travers son imaginaire, et heureusement d'ailleurs, car ça lui permet d'échapper à certaines contraintes, à certaines peurs, à certaines angoisses aussi. L'angoisse du grimpeur, elle est tenace et elle est particulièrement puissante quand elle le saisit.
Mais est-ce que l'angoisse du grimpeur n'est pas une protestation de son humanité, finalement, face à ce monde indifférent dont il apprend l'indifférence, c'est-à-dire l'inhumanité, précisément, le fait qu'il n'est pas conforme à nos désirs et que les rochers ne sont pas là pour nous faire plaisir?
Mais oui, certainement. Moi, je pense que là, il y a une métaphore très, très puissante de la confrontation, non pas seulement d'un individu à d'autres individus, et tous ensemble, ils vont former une humanité, mais une confrontation encore plus peut-être fondamentale à l'univers tout entier. Avec, encore une fois, et j'y reviens, c'est une notion importante, le mystère.
Vous diriez le mystère. Autre mystère quand même, Igor Bogdanov. On arrive au terme de cette émission, mais encore un petit point. Tout le travail du grimpeur, acquérir cette fluidité, cette souplesse, cette précision, cette euphorie corporelle, cette mémoire du corps, cette vie incorporée, cette temporalité non sécable. Bref, cette façon de s'adapter au monde plutôt que d'adapter le monde à nos besoins. Donc cette humilité du grimpeur, qui est également une façon de renouer avec la vie, est également pour le grimpeur une façon de se minéraliser, paradoxalement. On retrouve ce que disait Ravesson, qui allait situer la vie jusque dans le cristal. Peut-être pour le grimpeur, y a-t-il une façon paradoxale d'en revenir à la vie vraiment vécue en revenant à la pierre?
Oui, tout à fait. Le geste s'incorpore de manière telle que le grimpeur devient une sorte d'extension minérale de lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, au fond, cette minéralisation du geste, cette minéralisation du moi aussi. Parce que, et j'en finirai par là, le grimpeur aura toujours une âme droite et forte. Et il lui faut être un peu minéral, un peu rigide, hein, d'une certaine manière, pour échapper à cette angoisse dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être pour comprendre aussi sa part de mystère.
À force d'indifférence et d'insensibilité, il arrive qu'un visage rejoigne la grandeur minérale d'un paysage. Comme certains paysans d'Espagne arrivent à ressembler aux oliviers de leur terre, ainsi les visages de Giotto, dépouillés des ombres dérisoires où l'âme se manifeste, finissent par rejoindre la Toscane elle-même dans la seule leçon dont elle est prodigue, un exercice de la passion au détriment de l'émotion. Un mélange d'ascèse et de jouissance, une résonance commune à la terre et à l'homme, par quoi l'homme comme la terre se définit à mi-chemin entre la misère et l'amour. Il n'y a pas tellement de vérité dont le cœur soit assuré, et je savais bien l'évidence de celle-ci, certains soirs où l'ombre commençait à noyer les vignes et les oliviers de la campagne de Florence d'une grande tristesse muette. Mais la tristesse dans ce pays n'est jamais qu'un commentaire de la beauté. Et dans le train qui filait à travers le soir, je sentais quelque chose se dénouer en moi. Puis-je douter aujourd'hui qu'avec le visage de la tristesse, cela s'appelait cependant du bonheur?
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
Un grand, un immense merci, Igor Bogdanov, d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Merci d'être venu au Nouveau Chemin de la Connaissance pour parler aujourd'hui d'escalade, c'est-à-dire de varap.
Just keep me hanging.
Trois textes ont été mentionnés dans cette émission, De l'habitude de Ravaisson, de Félix Ravaisson, L'esthétique du pôle Nord de Michel Onfray, et le dernier texte que j'ai lu, un extrait des Noces d'Albert Camus, un chef-d'œuvre.
Problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun.
Suite demain de cette semaine sur la philosophie du sport dans les nouveaux chemins de la connaissance, nous accueillerons Thierry Taon qui enseigne la philosophie au lycée Canton d'Anglet et qui est l'auteur d'une petite philosophie du rugby parue aux éditions Milan.
I thought I was
à la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère. À la réalisation, Christine Diger. Assistant et collaboration indispensable, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Igor Kortelitsa. France Culture, il est exactement 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.